Bonjour, Nathalie De Broc. Ces femmes qui sont allées au bout de leurs rêves. Des parcours atypiques, des basculements de vie qui nous démontrent qu'au féminin, tout est possible. Aujourd'hui,
Monique Poulet.
Bonjour Monique.
Bonjour.
D'habitude, Nathalie. J'aime aller sur les lieux de travail ou de vie des femmes qui vont au bout de leurs rêves. Mais en ce moment, bon, on le sait, c'est pas très facile, hein. On a bien compris. Donc, nous sommes toutes les deux pour une fois dans les studios de RCF. On a beaucoup de chance parce que conditions optimales, techniques, avec Guilhem qui est aux manettes. Alors, au lieu des locaux d'Algoplus à Roscoff. Puisqu'on va parler d'AlgoPlus et de votre démarche. Avant de nous raconter quelle était cette démarche, justement, j'aimerais bien que vous expliquiez ce que c'est AlgoPlus.
Alors AlgoPlus, ben, c'est une aventure de maintenant 28 ans, puisque quand on dit AlgoPlus, on parle d'algues. Et l'idée initiale, ce sont les algues alimentaires. Mais il y a 28 ans, qui voulait manger de l'algue alimentaire? Personne. Hein. C'était la croix et la bannière. Donc on a démarré par de l'algue de décoration, après de la cosmétique aux algues, après faire nos conserves, après une poissonnerie, un hôtel, un restaurant. Voilà, AlgoPlus, c'est tout ça aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est d'être venu à ses origines, l'algue alimentaire.
Alors donc c'est une usine qui est... On peut dire usine?
Voilà, moi je l'appelle ma petite fabrique. Hein.
Oh, c'est bien plus sympathique. Oh,
parce
comprends.
Que ça reste une petite PME, une petite équipe.
Vous êtes combien?
On est 25.
J'aimerais bien que vous me disiez comment ça a commencé. Il y a eu un déclic, hein. Ouais, il y a eu quelque chose.
Il y a eu un déclic parce que ça aurait jamais dû commencer en fait. Grâce à une émission de télé qu'on connaît tous, Thalassa, sur les algues plutôt asiatiques, puisque on sait bien que l'Asie a eu plusieurs décennies par rapport à nous. Comme pas une évidence, mais pourquoi ils en mangent et pas nous? Alors que justement dans ce reportage, on nous dit que la Bretagne a un des champs d'algues les plus riches d'Europe, voire au monde. Ça paraissait étrange hein, que ça ne soit pas exploité en France. Voilà le déclic, le vrai déclic. Hein.
Mais vous, vous faisiez quoi à ce moment-là?
Moi, j'étais secrétaire. Hein,
voilà. Donc pas du tout dans les algues?
Non, pas du tout. En Normandie, secrétaire, élevée au bord de la mer, avec un papa qui pêche, les vacances sur des îles.
Hein. Et qui allait chercher des algues quand même, ou il y en avait moins qu'ici?
On les regardait pas.
Mais de passer de l'émission à monter une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
Les choses de la vie, en fait. Hein. Je perds mon emploi. La boîte où j'étais ferme. Et puis...
Chômage?
Chômage, exactement. Une vie en Normandie compliquée au niveau familial. Hein. C'était pour moi une évasion et partir. Partir de chez moi aussi. Hein. En quittant les repères familiaux.
Et une fois en Bretagne, alors faut dire quand même qu'il y a un mari qui est derrière et qui a eu la même passion que vous, c'est ça?
Voilà, un ami. Voilà, on s'est rencontrés sur un bateau. Et lui aussi se retrouvait dans une passe compliquée. Et par contre, lui, il avait un gros atout hein, par rapport à moi, c'est qu'il adorait cuisiner. Et ben voilà.
Et vous avez commencé quoi? Dans un garage? Comment?
Alors, au début, en Bretagne, en essayant de voir un petit peu commander des petites algues qui se faisaient, aller chercher des petites algues qui pouvaient se cuisiner, faire venir des petites algues en Normandie, commencer à les cuisiner. Le frigo, il était rempli d'algues. Et puis, bien sûr, venir à Roscoff, puisque tout le monde disait que Roscoff, c'était un des champs d'algues les plus riches d'Europe.
Et là, vous avez commencé à aller les chercher, les algues, vous-même?
Oui.
C'est ça. C'est là où le vrai déclic?
Oui, c'est ça.
C'est quand vous avez commencé à les toucher et à aller les cueillir?
À repérer les champs d'algues, les découvrir, identifier les algues autorisées à la consommation. À l'époque, en 93, il y en avait 11 algues légiférées par le Conseil d'hygiène et de la santé. Donc, il y en a qui se ressemblent. Je me souviens avoir récolté une algue rouge, croyant que c'était de la dulce. Et c'était pas du tout celle-là. Hein. Voilà, donc un peu de théorie et beaucoup de pratique, oui. Beaucoup de démarches sur les champs d'algues. Hein.
Et alors donc vous êtes allé beaucoup donc sur ces, on dit champs d'algues alors, en fait c'est le rivage je suppose.
Oui c'est le rivage mais surtout au large, hein, puisque les algues alimentaires elles ne se cueillent pas vraiment au bord hein, des plages mais au large avec des grands coefficients. Hein. Donc il faut faire déjà en moyenne pratiquement 1 kilomètre avant d'aller trouver de l'algue alimentaire.
Hein. On y va à pied ?
On y va à pied.
On par a regardé... tous les temps ?
Ah oui, par tous les... Alors, par tous les temps. On a regardé comment les goémoniers d'autrefois travaillaient. Ils étaient à pied, avec une faucille et la charrette. Donc, la faucille, ce n'était pas un problème pour les cueillir, pour les sélectionner, les choisir, puis surtout pour qu'elles repoussent. Il s'agit de les couper. La charrette, oui. Au début, ça a été juste une petite brouette, parce que les quantités n'étaient pas là. Hein. Donc, tout à la brouette. C'était notre façon de les transporter. Et puis, de la brouette, on est passé au tracteur. Parce que là, on voulait faire déjà... On a vu qu'il y avait un peu plus de volume, surtout sur une algue. Hein. D'ailleurs, on est en plein dedans en ce moment. L'algue pour la décoration des étals des poissonniers. On a eu...
Le ficus, oui.
Ficus ou ascophyllum, on a eu... En fait, un premier poissonnier nous a demandé, est venu à nous, et nous a demandé, mais je cherche l'algue pour mettre sur mes étals de poissons. Et en fait, c'est lui qui nous a révélé ce marché. Aujourd'hui, on en fait, là, rien qu'en décembre, il va en partir 70 tonnes. Alors, en fait, on s'est adapté à la demande. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait quelques marchés d'algues alimentaires. On s'approchait pas de moi. On me montrait du doigt. Je disais, mais non, mais les gens étaient totalement réfractaires. Hein. Je repartais, j'avais rien vendu. Oui. Et donc, de l'algue, voilà, on a demandé des algues pour mettre dans le bain. Eh ben pourquoi pas? On a fait nos propres savons aux algues. Hein. Voilà, de là, on a pu honorer déjà cette clientèle.
Et vous en viviez à ce moment-là?
Non, les 3 premières années, non. L'algue de décoration nous faisait un marché au quotidien. Donc, ça nous amenait un petit peu de trésorerie, mais pas suffisamment pour en vivre. La deuxième étape, la grosse étape, ça a été de se dire, on faisait nos petites conserves d'algues. On a pris nos marmites. Et puis des marmites, eh ben, il a fallu un petit peu plus s'équiper.
Le marché alimentaire commençait à s'ouvrir. Il y avait moins de réticence.
Il y avait moins de réticence, mais le problème, c'est que l'algue alimentaire, on n'avait que quelques produits, un courbouillon, des algues en conserve.
Des trucs qui font pas peur, quoi.
Alors voilà, qui font pas peur, mais pas suffisamment de gamme pour aller voir les petits clients, les petites épiceries fines. Donc il fallait avoir une gamme plus étoffée. Donc on a commencé à acheter en criée. Donc on avait la gamme avec ou sans algues. Donc en rachetant une petite poissonnerie, ça nous a permis d'avoir un débit quotidien et de pouvoir avoir une carte d'achat criée à Roscoff et après dans les autres criées de Bretagne.
Mais ça veut dire qu'on se remet en question en permanence?
On se remet en question et puis on a toujours une épée Damoclès au-dessus de la tête et on l'a toujours malheureusement, enfin une marée noire. Voilà, ça nous obsède. On en parle beaucoup en Bretagne, on a beaucoup parlé. Nous, on n'étions pas présents à l'époque de la Mococadis, mais quand on en parle aux anciens, ils ont été traumatisés. Et à chaque fois, on se disait, mais oh, ça pourrait se reproduire et nous, alors, qu'est-ce qu'on deviendrait? Donc, il faudrait pouvoir se reconvertir.
Et est-ce qu'il y a eu des obstacles alors? Mais je vous connais, je sais que vous allez jamais dire du mal, mais ça a été dur quand même.
Oui et non. Oui, parce que il fallait pouvoir en vivre, voilà. Et non, parce que souvent on dit c'est compliqué de se faire accepter dans une région. Je dirais l'avantage pour nous, c'est qu'on ne connaissait personne. Donc on faisait notre chose dans notre coin. Et après, les locaux nous disaient « Ah, mais c'était vous en tracteur là-bas sur la plage. Ah, je vous ai vu. » On s'est fait accepter de par notre travail, hein, par les locaux, hein, qui étaient intrigués.
Et puis, il faut dire aussi peut-être que vous avez un physique qui détonne sur un tracteur sur la plage. Petite blonde pétulante, avec jupe parfois courte, super sexy. Donc, ouais, enfin, ça aide quand même, non, peut-être.
Aujourd'hui, je prends peut-être un petit peu plus soin de moi.
Et si vraiment. C'était à refaire?
Je le referai parce que j'ai quand même rencontré mon mari en Bretagne. Donc, je le referai, oui.